Puisque les siècles ont beau passer, l'amour continue toujours d'inspirer les artistes, que ce soit pour des romans, des poèmes, des films, des chansons, mais aussi de la peinture. L'amour, sujet inépuisable d'imagination, tellement insufflant qu'il sera l'un des thèmes centraux de l'œuvre du peintre philosophe français Nicolas Poussin. Poussin et l'amour, c'est l'exposition à retrouver jusqu'au 5 mars prochain au Musée des Beaux-Arts de Lyon. Et évidemment, on parle d'amour, on parle aussi d'histoire de cœur, de passion, mais aussi un petit peu quand même d'érotisme dans les œuvres de Nicolas Poussin. On va aussi parler de peinture et tout ça, on en parle avec Ludmila Virasamanayiken, conservatrice en chef du patrimoine au Musée des Beaux-Arts. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors Nicolas Poussin, peintre-philosophe, donc avant de devenir un peintre qui va énormément peindre l'amour, c'est quoi un petit peu son histoire, son parcours? On sait quoi de lui?
On sait assez peu de choses de lui parce qu'on sait ce qu'il raconte de sa vie, à la fin de sa vie, à ses biographes pour construire lui-même la statue qui va le représenter à travers les siècles à venir. Et il est resté très, très silencieux, très pudique sur ses premières années. Alors on en vient à spéculer hein, sur ses... sa jeunesse, hein, sûrement moins rigoureuse qu'il ne veut le laisser penser. Alors, c'est un peintre qui naît en Normandie, aux Antilles, mais c'est un peintre à part parce qu'il va sûrement suivre une formation au Collège des Jésuites à Rouen. C'est ce que l'on imagine parce que c'est un peintre très lettré, qui a déjà beaucoup lu avant même de peindre,
Ce qui n'est pas forcément le cas.
D'accord. On entre très tôt dans des ateliers pour assister les peintres qui dirigent des ateliers. Ce sont des petites usines, des petites manufactures. Et Nicolas Poussin, lui, va commencer très vite par inventer ses propres sujets parce qu'il peut s'asseoir sur cette culture. On sait peu de choses de lui. On sait qu'il va à Paris, qu'il essaye d'entrer qu'il entre dans certains ateliers, mais ça ne lui plaît pas. Et de fait, pendant toute sa vie, ça va être une figure très indépendante, qui ne va pas vouloir s'assujettir à un prince, à un commanditaire, à un protecteur, qui ne va pas non plus avoir un atelier autour de lui. C'est quelqu'un de farouchement indépendant et qui va tenter très vite d'aller à Rome, parce que c'est l'endroit où il faut être au début du XVIIe siècle. Hein, c'est là que tout se passe. Les peintres de toute l'Europe y affluent et vivent une vie assez légère en général, mais ils reçoivent aussi surtout beaucoup de commandes. Il va tenter d'y aller une première fois en 1618, mais il échoue. Il doit s'arrêter à Florence et pour des raisons mystérieuses, on a même pensé qu'il avait une mission d'espionnage qui lui avait été confiée par Marie de Médicis. Il doit revenir en France. Et il y a une seconde tentative qui aboutit à Lyon. Et c'est là que l'histoire de Lyon et Nicolas Poussin commence. Donc entre 1619, 1622, en tout cas pendant plusieurs années, c'est ce que nous disent ses biographes, il reste à Lyon et il y peint une œuvre qui ouvre le parcours de l'exposition, La mort de Chionnet, une œuvre très forte. Et puis en 1624, il arrive enfin à Rome et là, il conçoit ses premières œuvres que l'on dévoile dans cette exposition, parce que Nicolas Poussin est l'un des peintres les plus connus de l'école de peinture française, mais on ne connaît pas forcément ce Poussin, parce qu'il a lui-même fait en sorte qu'on l'oublie un petit peu.
Ah, parce qu'il était plutôt réservé, ou alors il avait vraiment beaucoup de choses à cacher.
C'est-à-dire que c'est ses premières toiles que l'on redécouvre donc, dans les années 20, dans les années 1620, qui forment le gros de l'exposition au Musée des Beaux-Arts de Lyon, sont des toiles très licencieuses, au contenu franchement érotique pour certaines.
Oui.
Et ça n'est pas ainsi qu'il va entrer dans la postérité. Hein. Ce sont des tableaux historiques au sujet très sévère, très rigoureux, qui sont davantage connus, donc à partir des années 30, 40, 50. Et ce peintre qui arrive à Rome, qui doit manger, tout simplement.
Oui, donc il dit oui, en fait.
Voilà. Et il travaille pour des marchands. C'est ce que l'on commence à comprendre. Et parce que c'est un artiste parmi les plus connus qui soit, mais sur lequel il reste beaucoup de choses à découvrir, et notamment sur cette période qu'il a souhaité délibérément laisser un petit peu dans l'ombre.
Pour ne pas lui faire de mauvaise presse si c'était ses premières œuvres, c'est ça?
Ce sont ses premières œuvres, mais qui sont très, très belles. C'est ce que l'on découvre dans l'exposition. Elles sont peut-être même...
plus jolies que les plus...
plus séduisantes. Alors, par le sujet, évidemment, parce que ce sont des œuvres qui ne nécessitent pas d'avoir une grande culture pour les appréhender. C'est la séduction du corps, les plaisirs et les désirs qui sont exprimés à travers ces œuvres. Le sentiment amoureux aussi, parfois. Mais aussi parce qu'il y déploie beaucoup d'effets picturaux très, très séduisants, inspirés notamment par les Vénitiens, donc un travail en glacis, en transparence, en pâte. Parce qu'il n'est pas encore atteint de, ou il commence à l'être, de cette maladie, ce mal français, comme on le dit, la syphilis, très vraisemblablement, qui va l'amoindrir et qui va transformer de plus en plus son travail en un combat contre la matière.
Donc au final, l'amour, parce que la syphilis, ça se transmet plutôt de façon sexuelle, c'est bien
oui,
ça.
Tout à fait.
Donc au final, Poussin et l'amour, c'était quand même
il
quelqu'un.
Il a sûrement eu des premières années romaines très.
Oui, le coquin, le petit
déluré.
Filou. Oui, oui, bah, en fait, c'était plutôt quelqu'un alors qui a choisi comme thème l'amour parce que c'était un amoureux des femmes, un amoureux de la vie, un amoureux de l'amour. Ça aussi, on ne sait pas vraiment.
On ne le sait pas d'un point de vue documentaire. Il n'en a pas parlé, les témoins n'en parlent pas. Mais quand on voit ses toiles, on le comprend, on le sent, vraiment. C'est,
oui.
Quand il traite de la transparence des chairs, de leur moelleux, enfin, c'est quelqu'un
très
qui a une approche charnelle évidente, ce qui est beaucoup moins vrai pour les œuvres dites de la maturité.